Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, l'analyse linéaire d'Arias, tirée de Les caractères de la Bruyère, en 1688. Évidemment, ceci n'est pas un modèle, c'est un exemple. Vos réflexions personnelles peuvent mener à d'autres pistes de lecture. Débutons par l'introduction. Le mouvement du classicisme à l'époque de Louis XIV possède un fort aspect moral. Les fables de La Fontaine, les maximes de La Rochefoucauld illustrent cet aspect. Les caractères de la Bruyère font partie de cette catégorie de textes qui posent argumentation et instruction en même temps. Après 17 années de travail, la Bruyère publie les caractères en 1688. L'œuvre se compose de maximes et surtout de plusieurs séries de portraits satiriques, de caricatures qui visent à dénoncer, souvent grâce à une argumentation indirecte, certains comportements de son époque et plus généralement des travers humains universels. Ici, le portrait d'Arias, qui se situe dans la section de la société de la conversation, expose un personnage imbu de lui-même, prétentieux, persuadé de posséder une culture et un savoir encyclopédique. Alors, nous demanderons comment l'auteur ridiculise-t-il Arias. Le texte peut se décomposer en trois mouvements. Tout d'abord, la présentation du personnage dans la première phrase, de Arias a tout lu à quelque chose, qui débute la caricature. Ensuite, on observe une mise en situation d'Arias dans la phrase suivante, de « on parle » jusqu'à « éclater ». Enfin, la suite du texte le voit répondre à un contradicteur et le mener à sa perte. Le premier mouvement, donc. Il mène la présentation d'Arias. Je rappelle, de Arias a tout lu à quelque chose. Dès le début, l'auteur manie l'ironie sur son personnage. A tout lu, a tout vu. Évidemment, la répétition de tout accentue l'hyperbole et insiste sur la prétention vaine d'Arias. En effet, il ne peut avoir tout lu ni tout vu. La Bruyère nous indique que cette affirmation est fausse. Il veut le persuader ainsi. Ce n'est donc pas la vérité. Le pronom « le » reprend « a tout vu, a tout lu » et Arias souhaite donc montrer à tout le monde qu'il possède une connaissance universelle. Non d'ailleurs par la raison ou des arguments, mais en persuadant les autres. Ces deux idées de savoir exhaustif et d'attachement paraître sont reprises dans la deuxième partie de la phrase, en parallélisme avec la première partie d'ailleurs, après le point-virgule. Lorsqu'il dit « c'est un homme universel, il se donne pour tel ». Les deux points introduisent une explication au propos de l'auteur sur le fait que le savoir d'Arias n'est qu'apparent et peu profond. Il dit « il aime mieux mentir ». C'est un blâme direct d'Arias qui est présenté comme malhonnête. Le portrait moral est donc peu flatteur du personnage. Il est décrit comme prétentieux, attaché à son image, manipulateur et menteur, comme le contraire finalement d'un gentilhomme qui est le modèle de l'époque. Le premier mouvement qui introduit le personnage en une phrase, ainsi que la suite du texte, donne ceci, se mettre en avant dans la discussion et mentir sur ses informations. C'est une argumentation indirecte de la Bruyère qui est construite avec des étapes. Ainsi, le deuxième mouvement met Arias en situation. De « on parle à la table » jusqu'à « éclater ». Dans cette longue phrase, à la ponctuation abondante, à la ponctuation développée, l'auteur met Arias en situation dans un repas mondain. Le présent et l'accumulation d'informations dans une seule phrase donnent l'impression d'être témoin de la scène, de la vivre en temps réel. De plus, la longueur de la phrase transcrit le fait qu'Arias adore parler. Cette longueur peut être perçue comme une hyperbole de la logorrhée verbale du personnage. On parle à la table d'un grand d'une cour du Nord. Dans ce début de phrase, le « on » est un pronom indéfini qui indique la présence de plusieurs convives, mais sans donner leur identité. Le sujet est mondain puisqu'il porte sur un aristocrate, un personnage important d'une contrée un peu lointaine. Le décor est posé. La Bruyère place ensuite le lecteur dans l'action. Les deux points introduisent cette action. La répétition du pronom personnel « il », sept fois dans la phrase tout de même, est là pour rythmer la phrase et surtout pour montrer qu'Arias se pose au centre des débats et envahit l'espace. Le champ lexical de la parole est très présent. Parole, dire, discours, récite. On observe aussi un parallélisme qui expose la technique d'Arias pour s'accaparer la parole. Il prend la parole et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Ce parallélisme montre l'impolitesse et la rapidité avec laquelle Arias empêche les autres de parler, alors que potentiellement ils auraient des informations importantes, ce qu'ils en savent. Ensuite, nous avons une énumération des différents sujets qu'il aborde. Des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes, jusqu'à des historiettes. Il donne l'impression de tout connaître de ce pays dans les moindres détails. C'est un caractère mensonger, effectivement, de ses propos, qui est rappelé par la Bruyère avec cette comparaison. Comme s'il en était originaire. Il n'en est évidemment pas originaire, il est français, il ne vient pas d'un pays du Nord. Enfin, nous remarquons la stratégie d'argumentation d'Arias. Il cherche à persuader par les émotions, en jouant avec son auditoire, en se mettant lui-même en scène. Il les trouve plaisantes, il en rit le premier jusqu'à éclater. Et il veut convaincre par des arguments avancés comme réels et concrets. Il récite des historiettes. Dans ce mouvement, l'auteur dépeint Arias concentré sur le paraître et non sur l'être, qui se fait passer pour une personne brillante, ayant réponse à tout et se comportant comme un malotru avec impolitesse. Le troisième mouvement met Arias face à la contradiction et le montre en train de se ridiculiser. Donc, c'est la suite du texte, la fin du texte, de quelqu'un se hasarde jusqu'à la fin. Une personne peut prendre la parole, au début de manière hésitante. Quelqu'un se hasarde de le contredire. Le verbe « hasarder » marque le fait que contredire Arias paraît une entreprise dangereuse, inconsciente, puisqu'il sait tout. Son contradicteur ne cherche pas à persuader, mais à convaincre par une argumentation logique, s'appuyant sur des faits concrets, lui prouve nettement. Il dévoile le caractère inexact des propos d'Arias, des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se laisse pas démonter pour si peu et garde son assurance. Arias ne se trouble point. La métaphore prend feu contre son interrupteur, évoque une nouvelle fois sa force de persuasion, son arrogance et son orgueil démesuré quand il s'agit de défendre sa réputation de savoir universel. Les deux points introduisent la réponse d'Arias au discours direct. On remarque les guillemets et l'expression « dit-il ». Ce changement d'énonciation renforce le caractère réaliste en immergeant encore plus le lecteur dans la scène et met en exergue, en avant, la prise de parole du personnage afin de mieux le décrédibiliser par la suite. Il débute par réfuter la position du contradicteur en réaffirmant la véracité de ses informations. « Je ne raconte rien que je ne sache d'original. » Il va ensuite convaincre l'auditoire de sa pertinence face à son contradicteur en apportant des explications, des justifications inattaquables, des arguments d'autorité. « Je l'ai appris de ses tons, l'ambassadeur de France dans cette cour. » Il convoque une personnalité officielle dont les propos ne sauraient être remis en cause. Il insiste sur sa proximité avec ce personnage en employant de nouveau une accumulation, ici, de trois propositions subordonnées relatives. « Que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Cette gradation sert à renforcer la confiance qu'on peut avoir en lui. Il est donc quelqu'un d'important s'il connaît si familièrement cet ambassadeur. Bouffi d'arrogance, plein de lui-même et de prétention, il reprend sa péroraison comme si rien ne s'était passé. Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé. L'auteur est de nouveau ironique en nous montrant qu'Arias s'entraîne lui-même vers sa chute. La dernière phrase du texte constitue la chute, une morale implicite avec de nouveau le discours direct pour bien marquer l'importance de ces derniers mots. C'est cet oncle à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive fraîchement de son ambassade. Nous assistons à un coup de théâtre, un retournement complet de situation qui ridiculise Arias et le montre pour ce qu'il est, un homme prétentieux, menteur et pas si cultivé qu'il souhaite le faire croire. Cette humiliation le fait même paraître pour un idiot. Ce ton s'exprime avec un ton sarcastique en se mettant en scène, employant la troisième personne du singulier pour parler de lui-même. On peut sentir que le gentilhomme s'est contenu pendant un long moment avant finalement de confondre Arias. Il le fait néanmoins avec un trait d'esprit. Cette morale implicite découlant de l'anecdote racontée pourrait être « Quand on ne sait pas, mieux vaut se taire ». Passons à la conclusion. Le premier mouvement peint un portrait moral général d'Arias et présente les éléments importants de la scène qui va suivre, la prétention d'Arias et sa propension à mentir. Le second mouvement du texte le met en action dans une discussion de salon, avec grossièreté dans ses manières et exagération dans ses propos. Enfin, la dernière partie du texte le voit s'enfoncer dans le mensonge et le ridicule. La Bruyère, grâce à une anecdote drôle et grinçante, dénonce le pédantisme de son époque en vogue à la cour. Il critique l'importance donnée à l'apparence au détriment de la profondeur et de l'intelligence dans les conversations mondaines. L'auteur des caractères n'est pas le seul en ce temps-là à se moquer des pédants. Molière, par exemple, en fait aussi une satire dans sa comédie « Les précieuses ridicules » en 1659. Merci pour votre écoute et votre attention. Les cours Julien reviendront évidemment avec d'autres commentaires en podcast, mais vous pouvez aussi regarder sur le site les autres commentaires écrits ainsi que les méthodes de commentaires. Portez-vous bien et à bientôt sur les cours Julien.